Bonjour à tous. Je vous invite de nouveau à la prière pour ce temps de prédication. Notre Père, merci. Merci parce qu'effectivement, c'est un privilège de pouvoir recevoir de toi ton esprit, ta révélation. Et nous voulons continuer ce matin d'être à l'écoute de ce que tu veux nous révéler dans ta parole. Que nous puissions être ouverts à toi, que notre cœur puisse être relié à toi, quelles que soient les situations qui peuvent nous éprouver, nous préoccuper, ou les situations qui peuvent nous détourner, d'être concentrés, que tu puisses agir dans notre vie, pendant cette écoute et même au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Alors le mois dernier, le 14 juin plus exactement, si je ne me trompe pas, les bacheliers ont passé leur épreuve de philosophie. Et comme tous les ans, j'aime bien regarder les sujets qui ont été donnés en philosophie pour m'en inspirer et en faire un sujet de prédication. Alors l'un des sujets du bac de philo était le suivant. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Alors, on se rend compte que d'année en année, il y a souvent des mêmes thèmes qui réapparaissent avec des interrogations un peu différentes. Donc, cette année, il y a souvent un thème sur la justice. Là, c'est la paix et la justice. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Et cette question, préparée bien avant, mais posée le 14 juin, est d'autant plus pertinente aujourd'hui alors que notre pays a traversé une période troublée marquée par des événements récents. L'incident tragique du 27 juin dernier où un jeune homme a perdu la vie lors d'une altercation avec la police et ce qui a déclenché des émeutes à travers la France. Face à ces événements, il est encore plus judicieux de réfléchir à notre aspiration à la paix et à la justice. Pendant cette période préoccupante, où nous avons vu des images violentes, où nous avons vu aussi dans quelles conditions certaines personnes vivent, je me suis senti privilégié à plusieurs titres. Privilégié de vivre dans un lieu et un cadre relativement calme et épargné des violences urbaines. Privilégié d'être bien entouré par la famille, par les amis. Privilégié d'avoir fait ma scolarité, même mon enfance, dans des établissements normaux, on va dire de qualité. Et par-dessus tout, je me considère privilégié d'avoir rencontré Dieu. Et tous ces privilèges font que je me sens souvent loin de la pauvreté et des violences auxquelles certains sont confrontés tous les jours. Quand j'étais stagiaire au GBU, je me souviens avoir animé une fois une étude biblique chez une jeune. Elle vivait en banlieue parisienne, dans un quartier à risque. Et donc, elle a donné quelques conseils pour nous rendre chez elle. Elle m'a donné comme conseil de ne pas oublier ma carte d'identité en cas de contrôle de la police. Alors, je ne savais pas pourquoi elle me parlait de ça. Je ne m'étais jamais fait contrôler de ma vie. Alors, je lui ai demandé, ah oui, c'est vrai? Ce genre de choses arrive vraiment comme dans les films? Elle m'a dit que oui, que c'était fréquent là où elle habite. Et lorsqu'en fin de journée, après l'étude biblique, il fallait que chacun rentre chez lui en RER, elle nous a proposé de nous raccompagner à la station RER parce qu'avec elle, il y avait moins de risques de se faire agresser, étant donné que les gens la connaissent dans le quartier. Alors ce genre de situation, les contrôles de police du fait de la délinquance ou les risques d'agression, c'est le quotidien de beaucoup de gens. Le quotidien. Est-ce que nous nous sentons concernés par ce qui arrive dans notre pays? J'avoue que le confort dans lequel je vis me fait trop souvent oublier ce qui se passe parfois juste à côté. Dans la Bible, voici ce que l'auteur du psaume 34 nous dit à propos de la paix. Et c'est mon premier point. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est un appel à vivre de manière juste, la justice. Et juste après, recherche et poursuis la paix. C'est un appel à agir. Et ces deux verbes sont très forts. Rechercher et poursuivre. C'est le psaume 34, verset 14. La paix n'est pas seulement une chose à souhaiter. Nous sommes appelés à rechercher et à poursuivre la paix. Lorsque dans un match de foot, on dit qu'un joueur poursuit son adversaire pour lui prendre le ballon, il ne reste pas juste sur le terrain pour regarder sans rien faire, en disant « je souhaite avoir le ballon ». Il met plutôt toutes les ressources qu'il a en marche pour atteindre son but. Il met en mouvement, il dépense tout ce qu'il peut dans son corps, sa pensée, sa motivation, son énergie pour atteindre, pour poursuivre ce qu'il veut atteindre. Et la Bible nous dit « recherche et poursuis la paix », dit l'Éternel. Et nous, comment poursuivons-nous la paix? Quelles actions mettons-nous en place pour contribuer à la paix? Alors nous reviendrons un peu sur cette question dans quelques instants. Avant cela, remarquons que le psalmiste nous demande de nous éloigner du mal et de faire le bien. La justice, selon la Bible, ce n'est pas seulement suivre des règles du type « fais pas ci, fais pas ça ». La justice, c'est s'éloigner du mal et de faire le bien. Les grands penseurs de tous les temps ont réfléchi à ce qui pourrait apporter la justice et la paix dans le monde. Et je vous propose, dans le deuxième point de ma prédication, je vous propose de parcourir ce que disent quelques philosophes, puis de voir ce que la Bible nous en dit. Donc, deuxième point, des grands penseurs ont réfléchi à la question de la paix et de la justice. Et je vais mentionner trois philosophes en particulier. Le premier philosophe, alors ça ne sera pas dans l'ordre chronologique, le premier philosophe que j'aimerais mentionner, c'est Emmanuel Kant, philosophe allemand des Lumières. 1795, il a écrit un ouvrage dont le titre est « Vers la paix éternelle ». Vers la paix éternelle. Et je trouve que c'est intéressant comme titre, parce qu'il parle de paix éternelle, non, paix perpétuelle, mais voilà. En tant que chrétien, cela résonne d'une certaine manière dans notre esprit, la paix éternelle, la paix perpétuelle. Dans cet ouvrage, il dit que la paix véritable ne peut être atteinte que si les relations internationales sont cadrées par des lois. Il faut que chaque pays accepte de signer des accords mutuels avec des pactes de non-agression. La paix passe donc pour lui par la justice, par des lois librement acceptées dans tous les pays, sans oublier la dignité de chaque individu. La paix, pour Kant, viendrait principalement de l'absence de guerre entre les pays. Le deuxième penseur que je citerai, c'est un Français, Jean-Jacques Rousseau, lui aussi philosophe des Lumières du XVIIIe siècle. Il accorde aussi une grande place à la justice comme fondement de la paix. Selon lui, plus une société est juste et équitable, moins il y aura de conflits et donc plus il y aura de paix. En 1762, il a écrit un ouvrage assez connu dont le titre est « Du contrat social ». Et il explique que la paix ne peut être atteinte que si les individus renoncent à une partie de leur liberté en échange d'une protection et d'un ordre social équitable. Pour que tout le monde soit heureux et en paix, il est important de partager les choses de manière équitable. Imaginons une cargaison de pommes de terre que tout le monde veut partager. Eh bien, pour que tout le monde soit content, les pommes de terre doivent être réparties équitablement. Rousseau dit que dans la société, c'est un peu pareil. Les ressources, comme la nourriture, les logements et les opportunités, doivent être partagées de manière juste entre tous les membres de la société. Rousseau propose ainsi l'idée d'un contrat social. C'est un accord que les gens passent entre eux, un accord tacite. Ils acceptent de respecter certaines règles pour vivre ensemble harmonieusement et en échange, ils sont protégés et ils ont la même chance, une chance égale, d'obtenir ce qu'ils ont besoin pour vivre heureux. Et selon Rousseau, quand les ressources et les opportunités sont partagées de manière équitable, il y a plus de paix, les gens sont plus heureux et il y a moins de conflits. C'est pourquoi il est important d'avoir une société où tout le monde a les mêmes chances. Enfin, pour terminer avec les penseurs, je mentionne un philosophe plus ancien, Aristote. C'est un philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Pour lui également, la justice est indispensable à la paix. Et il voit deux, même trois volets à la justice. Il y a d'une part la justice distributive, où l'on répartit de manière équitable les ressources, comme avec Rousseau. Aujourd'hui, on appellerait ça la justice sociale. Et d'autre part, il y a la justice corrective, où l'on fait réparer les fautes commises. Et Aristote dit aussi que la justice est une vertu individuelle. Chaque personne devrait chercher à être juste dans ses actions et dans ses relations avec les autres. Être juste, c'est trouver un équilibre entre être égoïste et être généreux, en agissant de manière équitable et en respectant les droits des autres. Aristote pensait que cultiver la vertu de la justice à titre individuel était essentiel à la paix. Il croyait que lorsque chaque personne agissait ainsi, eh bien cela contribuait à créer un environnement pacifique et la paix dans la société. Donc si je résume, Kant, Rousseau, Aristote et bien d'autres pensent tous que la justice et la paix sont étroitement liées et leurs points de vue sont assez semblables, avec des accents différents. On peut noter que ces philosophes ont influencé la pensée occidentale et surtout la pensée française. Nous n'en avons pas forcément conscience, mais les idées, en tout cas la plupart des idées du siècle des Lumières en particulier, sont à la base de notre société aujourd'hui. Ces idées mettent l'homme au centre. La solution pour avoir la paix, c'est l'intelligence et les capacités de l'être humain. La capacité de l'être humain à cultiver la vertu. La capacité de l'être humain à trouver les bonnes lois pour rendre le monde plus juste et plus en paix. Les idées des Lumières reviennent à mettre l'humain au centre. L'humain au centre et donc Dieu à côté. Dans une certaine mesure, cette réaction par rapport au christianisme était compréhensible. Parce que le christianisme majoritaire de l'époque était assez légaliste, basé sur le mérite et sur des superstitions. Il y avait de quoi être mal à l'aise vis-à-vis des institutions religieuses de l'époque. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement une institution qui a été mise de côté par les Lumières, mais c'est Dieu lui-même. Alors quel est le bilan de ces grandes réflexions depuis Aristote jusqu'aux Lumières ? Est-ce qu'avec ces théories, avec des lois, avec la confiance en l'être humain, le monde est devenu plus paisible ? Avons-nous réussi à instaurer la paix dans le monde ? Le XXe siècle, donc juste quelques décennies après le siècle des Lumières, le XXe siècle a été le siècle le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Le plus sanglant. Et les guerres qui ont éclaté n'étaient pas des guerres de religion. Et le XXIe siècle, malheureusement, ne laisse rien présager de mieux. Alors que faire ? Que dit la Bible ? La Bible parle de la réforme de Dieu pour la paix. C'est mon troisième et dernier point. Dans la Bible, l'histoire de l'humanité commence par un monde en paix. le jardin d'Éden. Mais très vite, l'être humain fait un mauvais usage de sa liberté et l'être humain s'éloigne de Dieu. Plus tard, avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu forme un peuple, le peuple d'Israël. Et il lui donne des lois pour que la justice règne et que la paix soit présente. Malheureusement, cette solution n'a pas fonctionné. Les lois censées apporter la justice et la paix n'étaient pas respectées. Dieu a également été mis de côté. Le peuple s'est éloigné, donc Dieu a été mis de côté. Alors, quelle est la solution de Dieu pour apporter la paix? Eh bien, pour un monde en paix, il faut que tout le monde respecte la justice. Et le défi, ce n'est pas seulement de trouver les bonnes lois, c'est de faire en sorte que tout le monde respecte ces lois. Comment faire pour faire respecter des règles communes? Est-ce par une justice répressive? Est-ce en punissant ceux qui ne font pas ce qu'il faut? Non, la Bible parle d'une réforme particulière pour que la justice soit respectée. Cette réforme, c'est la réforme du cœur humain. C'est le cœur humain qui doit changer. Lorsque Jésus a commencé sa mission sur terre, c'est la première chose qu'il a prêchée. Première chose qu'il a dite, changer d'attitude. Ce sont les premières paroles de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère. Changer d'attitude. Le cœur du problème se trouve dans le cœur de l'homme, incapable de respecter la justice de Dieu. Et donc, pour remédier à ce problème, il faut que le cœur de l'homme change. Mais peut-il changer par ses propres moyens? L'histoire du peuple d'Israël nous montre que le peuple n'a pas réussi. Et ce n'était pas un échec de Dieu, c'était une pédagogie de Dieu qui voulait nous faire prendre conscience que ce n'est pas seulement avec des lois que l'on peut rendre le monde meilleur. Et ce n'est pas seulement avec une bonne volonté. Alors, quelle est la proposition de Dieu pour rendre l'humanité plus juste? Voici ce que Dieu a annoncé à travers le prophète Jérémie. Voici, les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et avec la communauté de Juda une nouvelle alliance. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu révèle que l'ancienne alliance était basée sur des lois extérieures. Et cette alliance montre les limites de l'être humain. Alors Dieu propose d'aller plus loin. Il ne remet pas l'ancienne alliance en question, mais il établit une nouvelle alliance qui fait la continuité avec l'ancienne. Il grave sa loi directement dans le cœur des individus. Et on sait par la suite que c'est par l'action du Saint-Esprit. Cela signifie que la relation avec Dieu ne sera plus basée uniquement sur des règles externes, mais sur une transformation intérieure des cœurs et des esprits. Une transformation des cœurs et des esprits. En résumé, Dieu propose de réformer les cœurs, nos cœurs. Et cette réforme a lieu dans une rencontre avec lui. Et cette rencontre ne peut se faire qu'en reconnaissant nos limites, notre incapacité à être juste par nos propres moyens et notre besoin d'avoir le cœur transformé par Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend cette promesse et il la développe. Je vous la lis. Voici en effet quelle est l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est la citation du prophète Jérémie. Et on lit aussi, Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront dans le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux chapitre 8, versets 8 à 12. Dans le contexte, l'auteur explique que Jésus est l'auteur de la nouvelle alliance. Non seulement il est l'auteur de cette alliance, mais en plus il offre le pardon des péchés. Ce n'est pas une justice répressive ou punitive, mais une justice qui fait grâce, une justice qui pardonne, car la punition a déjà été acquittée par Jésus lui-même. Alors pour conclure, je dirais que la solution de Dieu pour apporter la paix, c'est de permettre d'abord la paix avec lui. La paix avec Dieu permet la relation avec lui. Et ensuite, la relation avec Dieu permet qu'il nous transforme, nous, qu'il transforme notre cœur. Et un cœur transformé permet d'agir avec plus de justice envers les autres, non par nos propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que le monde va être plus en paix ? Est-ce que le monde va être plus en paix grâce aux chrétiens ? Non, pas grâce aux chrétiens. C'est Dieu qui déroule son plan petit à petit. Et c'est Dieu qui est l'auteur de ce plan, et non pas les chrétiens. Les chrétiens, bien que transformés et pardonnés, restent pécheurs tant qu'ils sont dans cette vie terrestre. Ce sont des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés, des pécheurs en cours de conversion, un peu comme dans l'agriculture biologique. Quand vous allez dans un magasin bio ou dans un magasin, un supermarché, vous pouvez voir des produits avec une étiquette où il y a écrit « en conversion ». C'est lorsque le producteur est en train de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. C'est la période de transition. Eh bien, c'est exactement pareil avec les croyants. Nous sommes en transition, en cours de conversion. Et nous vivons dans un monde marqué par le mal et la souffrance. Dieu promet bien la paix, d'abord la paix avec lui, pour ensuite vivre la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et lorsqu'il le décidera, cette terre sera renouvelée, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La justice et la paix régneront. Cette espérance est offerte à tous ceux qui la reçoivent. Il suffit d'accepter la main tendue de Dieu et accepter la rencontre. Alors que faire pour poursuivre la paix ? Que faire pour contribuer à plus de paix ? Dieu nous propose d'abord de le rencontrer, de le suivre et de montrer par notre manière de vivre l'espérance que nous avons, celle qu'un jour sa justice sera établie ainsi que sa paix. En attendant, nous sommes en cours de conversion et nous sommes ses témoins. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que c'est toi qui nous mets en route dans cette marche de transition. C'est toi qui viens à notre rencontre, qui nous tend la main. C'est toi qui transformes nos cœurs. Et nous savons que par nos propres moyens, c'est impossible. Cela a été encore rappelé ce matin par ta parole, par les textes que Johan a lus. Et tu nous rappelles que nous avons besoin de toi. Merci parce que nous avons besoin de toi et tu te rends présent dans notre vie. Nous te demandons de nous aider à être attachés à toi, à te faire confiance, à te confier tous nos soucis, toutes nos joies, toute notre vie, afin que c'est toi qui la dirige et que nous puissions être des acteurs de paix là où nous sommes, en portant l'Évangile dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous